Il est 6h à Paris, 7h à Beyrouth et 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane et bonjour à tous.
Les États-Unis, Jeanne, appellent leurs ressortissants dans presque tout le Moyen-Orient à partir dès maintenant.
Et Donald Trump qui promet par ailleurs que les États-Unis répondront bientôt à l'attaque de leur ambassade à Riyad. L'armée américaine dit à l'instant avoir détruit des postes de commandement des gardiens de la révolution iranien. La guerre au Moyen-Orient qui entre dans son 4e jour, mais ce ne sera pas une guerre sans fin. Selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump lui n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol si nécessaire. Il l'a dit dans la presse, on fait le point dans ce journal. On parlera aussi de la France qui va permettre à ses alliés européens de participer aux exercices de dissuasion nucléaire. 8 pays européens se disent intéressés, dont la Pologne. Et puis l'actualité hors Moyen-Orient avec la 3e candidature au poste de secrétaire général de l'ONU, celle de Macky Sall, l'ancien président sénégalais qui a certains atouts en poche, vous l'entendrez.
Moyen-Orient entre dans son 4e jour de guerre.
Et aucun signe de répit pour le moment. L'armée israélienne continue de mener des frappes à grande échelle à travers Téhéran. Hier soir, c'est le siège de la télévision publique iranienne qui a été bombardé. Israël qui a émis un nouvel ordre d'évacuation pour des dizaines de localités du Liban, alors que l'Iran, de son côté, continue ses frappes sur les pays du Golfe. Une attaque de drone a visé cette nuit l'ambassade américaine à Riyad, provoquant un incendie limité. 8 autres drones ont été interceptés, alors que le Qatar dit avoir intercepté de son côté 2 missiles balistiques. La guerre qui s'installe donc. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Du service international d'RFI, mais elle ne durera pas cette guerre éternellement. C'est ce qu'a dit hier Benjamin Netanyahou.
Et ce ne sera pas une guerre sans fin, hein, selon le premier ministre de l'État hébreu. Interrogé sur la chaîne américaine Fox News, le dirigeant assure que l'Iran, déjà attaqué par Israël et les États-Unis l'année dernière, avait depuis commencé à construire de nouvelles installations souterraines, ce qui, selon lui, aurait rendu les programmes nucléaires et balistiques de l'Iran intouchables. Mais Benjamin Netanyahou veut aussi un changement de régime en Iran. Dans cette même interview, il entend créer les conditions nécessaires pour que le peuple iranien puisse prendre son destin en main pour faire de l'Iran un pays différent. Fin de citation.
Et côté américain, Nicolas, Donald Trump aussi s'est exprimé ces dernières heures.
Envisageant une guerre prolongée et assurant qu'il n'hésiterait pas à envoyer des troupes au sol si nécessaire. D'interview en déclaration, Donald Trump ne dissipe pas le flou sur les objectifs de l'attaque lancée samedi dernier contre l'Iran. Une guerre qui n'a pas reçu l'aval du Congrès des États-Unis, contrairement à ce que prévoit la Constitution. Et cette semaine, le Congrès américain étudiera un texte destiné à limiter les pouvoirs du président dans ce domaine.
Enfin, c'est propos de Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.
Selon lequel les États-Unis ont déclenché l'attaque car ils savaient qu'Israël allait passer à l'action. Nous savions que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines, assure Marco Rubio. Selon lui, les États-Unis devaient donc agir pour éviter des pertes plus importantes. C'est la première fois qu'un dirigeant américain livre cette version du déclenchement de la guerre.
Nicolas Falaise, pour ces précisions du service international d'RFI, du côté du bilan humain de ces 3 jours de guerre au Moyen-Orient, l'ONG RANA, basée aux États-Unis, a fait état de 742 morts civiles en Iran, près de 1000 blessés. Hier, la Croix-Rouge faisait état de son côté de 550 morts pour les 2 premiers jours de conflit. Aux États-Unis, le Pentagone a annoncé la mort de 6 militaires depuis samedi, au moins 9 morts en Israël dans une frappe de missile iranien. Et puis au Liban, les bombardements israéliens d'hier sur les bastions du Hezbollah pro-iranien ont fait 52 morts et 154 blessés. Le Hezbollah qui est donc entré dans le conflit, ce n'est pas encore le cas, en tout cas pas de manière coordonnée pour les ex-milices chiites intégrées à l'armée irakienne. Bonjour Grégory Lesquin.
Bonjour.
Le gouvernement central irakien poursuit ses tentatives de contrôler toutes les forces en présence pour éviter justement de voir la situation empirer dans le pays.
Oui, à Bagdad, le message du premier ministre irakien aux forces de sécurité est clair. Il faut empêcher toute action qui viserait à entraîner l'Irak dans la guerre. Lors d'un conseil de sécurité extraordinaire, il a insisté sur la nécessité d'unifier le commandement dans le contexte actuel. Les regards se tournent notamment vers les forces de mobilisation populaire représentées lors de ce conseil. Ces forces rassemblent des factions armées aujourd'hui intégrées aux institutions militaires. Elles ont assuré qu'elles n'agiraient qu'en accord avec les ordres du commandant des forces armées irakiennes. Une déclaration très symbolique, alors que depuis plusieurs jours, nombre de leurs brigades ont été prises pour cible par les États-Unis, qui les voient comme une menace possible dans sa guerre contre l'Iran. Près d'une dizaine de combattants ont été tués ces trois derniers jours. C'est pourquoi leur réaction suscite l'inquiétude du gouvernement irakien. Les autorités veulent éviter, entre autres, que les représentations diplomatiques soient prises pour cible. Mais sur le terrain, la situation n'est pas véritablement sous contrôle. Ce samedi, encore une trentaine d'attaques contre des positions américaines dans le pays ont été revendiquées par un groupe armé affilié à la résistance islamique en Irak, proche de Téhéran. La tension est donc palpable, avec la crainte que le pays finisse aussi par s'embraser.
Grégory Lesca, et dans ce contexte, les bourses asiatiques décrochent ce matin à l'ouverture. Moins 5% pour le principal indice de la bourse de Séoul. À Tokyo, les actions des compagnies aériennes, bousculées par la fermeture du ciel au Moyen-Orient, étaient à la baisse. Et puis les cours du pétrole continuent de grimper. Le baril de Brent de la mer du Nord frise désormais à nouveau les 80 dollars.
Face à la combinaison des menaces, nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire.
Voilà ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron à Brest, le président de la République française, qui a annoncé une dissuasion avancée et notamment la possibilité pour les alliés européens de participer aux exercices de la dissuasion nucléaire française. Emmanuel Macron qui annonce également avoir ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires sans donner de chiffres. Alors parmi les pays intéressés pour recevoir des infrastructures stratégiques sur son sol et participer à des exercices de dissuasion, il y a la Pologne, à la fois à la frontière de l'Europe et de l'OTAN. Le pays saisit cette opportunité alors que les questions de défense sont au cœur de ses préoccupations. Les réactions à Varsovie avec notre correspondant Adrien Sarlat.
Nous nous armons ensemble avec nos amis pour que nos ennemis n'osent jamais nous attaquer. Le Premier ministre polonais s'est fendu de ce tweet en référence aux propos du président français. Et Piotr est lui aussi de cet avis.
Entre Européens, on doit se soutenir et ne pas être les uns contre les autres. Ces têtes nucléaires, c'est dans l'ordre des choses. Puisqu'on n'a pas les nôtres, on accueille volontiers celles de nos alliés pour être capable de réagir ou même d'attaquer rapidement.
Lui résonne avec en toile de fond la menace russe contre laquelle la Pologne se prépare à faire face depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine voisine. Emmanuel Macron a cependant précisé que la France se réserverait la décision finale d'activer ou non les têtes nucléaires stationnées chez ses alliés. Une décision que Magda dit parfaitement comprendre.
Malheureusement, c'est comme ça. Ça me semble aussi compréhensible lorsqu'on choisit de confier ses armes nucléaires à un allié. On ne lui remet pas forcément la décision entre les mains de l'activer. Ce serait bizarre.
Rima, elle, tique encore sur les conditions énoncées par le président français.
Si des têtes nucléaires stationnent ici, je préférerais qu'on ait notre mot à dire pour décider ou non de son déclenchement. Mais j'espère qu'on n'en arrivera jamais là et qu'on n'aura pas à s'en servir.
Mais la Pologne en est convaincue. Pour avoir la paix, elle doit être prête à faire la guerre. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
Et dans ce contexte, Jeanne, attention au contenu qui circule sur Internet.
Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. La guerre au Moyen-Orient qui entraîne de très nombreuses publications depuis l'assassinat samedi de l'ayatollah Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines. Eh bien, les infox se multiplient. Avant l'officialisation de son décès, plusieurs médias israéliens ont annoncé qu'une photo de son corps avait été montrée à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou. Et c'est dans ce contexte que plusieurs photos mensongères sont devenues virales sur les réseaux sociaux, Grégory Genevrier.
Oui, vous avez peut-être vu passer ce cliché censé montrer le corps du guide suprême iranien sous les décombres. On pense y voir Ali Khamenei, du sable dans la bouche, des morceaux de briques sur la tête. Sauf que cette image vue plus de 15 millions de fois n'est pas réelle. Elle provient en réalité d'une vidéo générée par intelligence artificielle diffusée sur Instagram en janvier dernier. Ce clip assez visionnaire mettait en scène une possible attaque israélo-américaine sur Téhéran. À ce stade, aucune photo du corps d'Ali Khamenei n'a été rendue publique. En réponse à cette fausse information virale, des comptes iraniens pro-régime ont diffusé une photo montrant Donald Trump au sol, le visage en sang. Ils prétendent à tort que le président américain aurait été tué à la suite d'une frappe iranienne. Vérification faite, ce cliché a été pris le 13 juillet 2024 lors de sa tentative d'assassinat durant un meeting en Pennsylvanie. Donald Trump est bel et bien vivant. Ces infox sont le symbole d'une vaste guerre d'influence en cours sur les réseaux sociaux.
Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif d'RFI. Toutes leurs enquêtes sont à retrouver sur notre site rfi.fr.
6h10. 6 à Paris, le journal de Jeanne Bartoli. Et cette question, qui pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'ONU?
Le nouveau patron des Nations Unies doit être désigné, ce sera le 1er janvier prochain. Et le Burundi a présenté à l'ONU la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Il rejoint l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet et le directeur de l'Agence internationale atomique, l'Argentin Rafael Grossi, tous deux originaires d'Amérique latine, la région qui réclame le poste cette fois-ci à New York. Karine Auton.
Si l'ensemble du Conseil de sécurité élira le futur secrétaire général, ce sont vraiment les 5 membres permanents avec leur droit de veto qui décideront qui prendra la tête de l'ONU. Les conseillers de Macky Sall le savent et mettent en avant tout d'abord qu'il n'a lui pas de contentieux avec aucun de ses P5, Chine, États-Unis et Russie pouvant être particulièrement rancuniers. Xi Jinping avait co-présidé avec lui le forum Chine-Afrique. Vladimir Poutine avait apprécié sa neutralité et ses abstentions lorsque le Conseil des droits de l'homme cherchait à sanctionner la Russie. Ensuite, la composition du Conseil pourrait être favorable à l'ancien chef d'État sénégalais. 3 membres africains siègent au Conseil cette année. Bahreïn et le Pakistan sont tous deux membres de l'Organisation de la coopération islamique, une instance que Macky Sall connaît bien. Enfin, lorsqu'on fait remarquer qu'il est un homme, alors que depuis 10 ans, on chuchote à l'ONU qu'il serait temps qu'une femme prenne la tête de l'organisation, on réplique que Washington refuserait toute candidate et que Michelle Bachelet est de toute façon détestée par les Chinois et les Russes. Peu importe qu'il soit accusé par le nouveau président sénégalais d'agissement coupable dans la gestion des affaires venant du sud global, Macky Sall compte bien se présenter en candidat du consensus, un concept qui a disparu depuis 5 ans au moins à l'ONU. Sa première étape sera de faire endosser sa candidature par toute l'Union africaine. Karine Auton, New York, RFI.
En France, des peines de 6 à 15 ans de prison prononcées hier soir pour les 4 accusés dans le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. Le professeur d'histoire-géographie avait été décapité aux abords de son collège en 2020 par Abdoulak Anzorov, jeune tchétchène abattu par les forces de l'ordre, accusé de complicité d'assassinat terroriste ou d'association de malfaiteurs terroristes. 4 hommes avaient fait appel de leur jugement au terme d'un procès sous tension. 3 d'entre eux ont obtenu des peines moins lourdes qu'en première instance. Allez, enfin, on termine ce journal en musique. On referme ce matin notre tour des finalistes du prix Découverte RFI. Tous les ans, vous le savez, la Radio du Monde met en avant des artistes du continent africain. On part ce mardi en République démocratique du Congo, terre de naissance du groupe Yotsi, qui chante donc en Kimongo, en Tshiluba, en Swahili ou encore en Lingala. Léa Boutin-Rivière, le groupe impose sa patte, un riff de guitare électrique à la fois.
Yotsi, c'est une entité, mais 4 personnes, toutes âgées de 20 à 30 ans, 2 hommes et 2 femmes qui se sont rencontrés au centre Kinharmonique de Kinshasa, animés par un même désir, faire de la musique leur métier. Et tant pis si sur la scène locale, un groupe mixte, c'est encore rare. Avec une telle diversité d'âge, de genre, de profil, les 4 membres de Yotsi ont de quoi mélanger leurs influences et leurs références. Ils se retrouvent tous autour des rythmes traditionnels du Mutuashi entendus lors des fêtes de famille, mais ont aussi grandi avec les plateformes d'écoute. Ils n'hésitent donc pas à ajouter ici un peu d'afrobeat, là un peu de folk et une pincée de rock. Il faut dire que le slogan de Yotsi, c'est « No borders », pas de frontières, pas de limites, ni dans les styles donc, ni dans les thématiques, et peut-être pas non plus, qui sait, dans leur carrière.
Yotsi qui sera le choix musical de ce matin.
Et tous les portraits de nos finalistes, leur musique aussi, tout est à retrouver sur notre site RFI.fr. Vous avez jusqu'au 11 mars pour voter pour votre préféré. Verdict à l'antenne d'RFI le 13. Merci Jeanne Bartoli. 6h14 à Paris, 8h44 à Téhéran. Vous l'aurez compris, l'Iran encore au cœur de notre matinée. La guerre fait rage depuis le lancement de l'opération militaire israélo-américaine. De nouvelles frappes ces dernières heures sur le Liban, notamment le Hezbollah pris pour cible par Israël. Conséquence, des dizaines, voire des centaines de milliers de déplacés se sont précipités hier sur les routes. Des bénévoles tiennent un refuge sur une route d'exil, mais ils sont déjà dépassés.
On est en situation d'urgence. Il y a encore beaucoup de personnes coincées sur la route du Sud. Ça va leur prendre encore beaucoup de temps pour arriver. Mais c'est sûr, il y a encore beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'un abri. Et on va essayer d'en accueillir le plus possible.
Un arrière-goût de pinard, un foie à la place du cœur. Je crache dans mon verre, pourtant c'est lui qui me nourrit. Lui qui nourrit ma vie et qui éponge mon envie. L'heure n'est pas à l'image ni à la métaphore. Faut que ça sorte de mon verre, faut que ça déborde encore. Et ça déborde de mon corps, de mes yeux perlés d'alcool. Sur la gouttière trouée de mes nuits qui réclament un parapluie. J'avale la fumée pour apprécier la prochaine gorgée. Pour écorcher l'ardoise, danseur de duel, je suis pas le dernier. Même si aujourd'hui y en a qui me font de la concurrence. L'allégresse d'hier soir semble avoir tiré sa révérence. Car aujourd'hui c'est dimanche. Mais pour moi ça change rien, demain je serai là ou pas bien loin. Et cette envie colorée mes nuits blanches alimente mon litron de pastel, mon tableau qui chancelle. La cloche du bar cogne et je salue le pachyderme. Avec sa trompe en forme de cul de bouteille et son drôle d'épiderme. Mon voisin de comptoir, confident à ses jours perdus. Avec qui je refais l'histoire en un bloc d'idées non reçues. Pas aujourd'hui, il manque à l'appel. Il a laissé traîner une plume, vestige de cirrhose à la pelle. Bien en main, voilà l'essence de cette chanson. Quelques mots d'ivrogne dédiés à mes vieux compagnons. Je suis pas là pour me plaindre, ni pour me faire caresser le dos. Car mes bons vieux compagnons, je les ai rencontrés au bistrot. Avec leur air bourru et leur discours qu'on pas l'air net. On vient pas du même monde, mais on vit sur la même planète. La planète Jupiter, ou donne-lui le nom que tu veux. En tout cas en termes de famille, j'ai rien trouvé mieux que ce lieu. Et si demain tu me cherches et que d'un coup la cloche cogne, tu ne trouveras peut-être que la plume. Qui a écrit ces mots d'ivrogne? 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 Ces mots d'ivrogne, ces mots d'ivrogne. Qui a écrit ces mots d'ivrogne? Ces mots d'ivrogne, ces mots d'ivrogne. Qui a écrit ces mots d'ivrogne?
Toxic Avenger. sortir de chez moi. On a rempli de voitures avec des gars. Je connais le videur mais je crois qu'il me connaît pas. J'ai les mains moites, les pupilles écarlates. Je sais même pas comment j'ai fait pour entrer dans la boîte. Une fois de plus au même endroit avec mes pumps et ma chaîne en bois. T'es sans emploi mais tu claques un demi-smic. Pendant que Pink et Redman remix rythmique. Pendant que cherche une victime pour taxer une cigarette. Pour passer la nuit avec. Trop de grammes sous la casquette. Tim Bim, vodka, coca, jean, fuse monte à la tête. Essaye de concurrencer, cours à ta perte. Le bling bling, ta blague fait de l'ombre à la boule à facette. J'en ai rien à foutre de la danse du moment.
Bouge ton corps n'importe
où. Après la boîte on retourne ton appartement.
Bouge ton corps n'importe où. 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 Bouge ton corps n'importe où.
Dans les boîtes de province c'est toujours la même soupe. En 2010 il passe encore Fat Man Soup. C'est ma vodka, ma Red Bull. Le reste on s'en bat les couilles. Bébé viens faire la fête avec nous. Si t'es né avant 92. Toxique, passe derrière les platines s'il te plaît. Avant que j'assassine un disjockey. Bouge tes jambes, danse, fais bouger tes sous-vêtements. Tous les week-ends c'est le nouvel an. Et je sais pas si c'est parce que je suis sous les dents. Ou si c'est la vodka qui commence à bousiller mes sens. Mais je trouve toutes les filles sexy. Arrêtez les stroboscopes, je vais faire une crise d'épilepsie. Chérie tu m'excites, prends mon 0231. Oh puis merde, prends tes fringues et viens.
Si vous avez, comme moi, trituré les boutons de votre transistor, vous avez peut-être pu entendre
Principe actif.
Et si les autorités savaient où se trouve l'émetteur de cette radio clandestine, elles auraient pu interrompre cette émission.
Principe actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.